11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de...
e-sport.
E-sport, voilà. Je demande confirmation à nos invités sur la prononciation de ce mot, parce que je crois qu'il y a des prononciations alternatives qui ne sont pas satisfaisantes. Donc là, vous entendez Félix, donc, qui est président de l'association One Shot. Bonjour Félix.
Eh bien, bonjour à tous.
Voilà, donc vous êtes venus avec Théo et Maxime, bonjour.
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 Et il y a également en studio mon collègue Sébastien, bonjour.
Salut, bon, on m'a dit qu'on allait parler de jeux vidéo, donc tu vois, je suis venu.
Ah bah oui, voilà, le jeu vidéo, ça fait toujours venir les gens à campus. Alors si vous êtes ici, c'est parce que vous étiez étudiant au CEFIM. Donc voilà, c'est quand même, on peut le préciser, l'école du web et des réseaux. Donc peut-être on peut commencer, avant de parler de l'événement que vous organisez le 25 juin, donc samedi, à MAM, on peut rappeler, donc c'est quoi le CEFIM? Du coup, vous étiez précisément en formation, ou vous êtes en formation de chargé de communication e-sport. Donc comme nous sommes la radio étudiante, je serais curieuse de savoir, messieurs, comment on entre dans cette formation et en quoi elle consiste. Peut-être que Félix peut commencer, puisque vous êtes diplômé de l'année dernière.
Tout à fait, diplômé, exactement. Comment on rentre dans cette formation? Alors, personnellement, j'ai reçu un mail du CEFIM, dans une période un peu sombre, post-Covid, un mail un peu salvateur disant « Hey, salut, on a une formation chargée de communication e-sport, ça te dirait de l'intégrer, en gros ?» Et moi, j'étais à l'époque sommelier dans un bar. Donc avec le Covid, c'était très compliqué. On a dû mettre fin à mon contrat. Et le jour où on met fin à mon contrat, je reçois ce mail. Je me suis dit, bah, c'est parfait. J'ai fait des jeux vidéo toute ma vie. J'aime l'e-sport, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'étais à 500 km de là, moi. J'habitais à Annecy à l'époque. Et j'ai tout mis dans des cartons. J'ai pris la voiture, j'ai déménagé. Et j'ai tenté l'expérience. Et je suis là aujourd'hui. Donc voilà comment moi j'ai découvert le CEFIM et cette formation chargée de communication e-sport.
Voilà, donc c'est une formation qui dure quoi, 6 mois je crois à peu près,
7 mois il me semble.
Ouais, après il y a 2 mois de stage qui sont compris aussi dans la formation, donc ça fait 7-8 mois de formation à peu près.
Voilà, et donc je me tourne vers Théo et Maxime, donc vous êtes la promo 2022, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé à cette formation?
Vas-y, t'as quoi, toi, l'honneur?
Moi, c'est simplement par bouche à oreille et en cherchant aussi, tout simplement. Parce que j'étais en service civique de base et je savais pas trop quoi faire non plus après le service civique. Et j'ai été sur des missions de com, donc au départ, je cherchais une formation dans la com. Et je suis tombé là-dessus. Du coup, chargé de com plus e-sport, c'était juste parfait, quoi. Parce que j'étais dans le jeu vidéo aussi depuis que je suis tout petit, donc j'ai regardé sur internet, j'ai postulé entre guillemets, et après plusieurs entretiens, voilà, je me suis retrouvé dedans. Je suis pas trop pour Maxime.
Moi, pour ma part, du coup, je travaillais à l'époque dans le commerce et la restauration, et c'est vrai que le Covid a un peu gâché tout ça. Donc la formation arrive au bon moment, je voulais me rapprocher un peu plus des métiers digitales, du web et de la communication. J'ai regardé un peu sur internet et je suis tombé donc du coup sur le centre de formation CEFIM et notamment sur cette formation donc chargée de communication e-sport. Et c'est vrai que je joue beaucoup aux jeux vidéo, donc c'est un domaine qui me plaît beaucoup et que je connais aussi. Et j'ai voulu tenter ma chance, j'ai postulé tout simplement sur internet. J'ai eu une réponse, un mail, et on a eu des semaines de tests et j'étais validé. Donc du coup je suis assez content et la formation me plaît beaucoup, on apprend beaucoup de choses.
Donc on peut dire que c'est une formation qui est quand même dense et efficace en plusieurs séquences. Voilà, vous apprenez à utiliser de multiples outils. Alors est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus en fait, en quoi consiste cette formation?
Alors, elle a un peu... ce qui est particulier, c'est que c'était la première fois, pour notre session à nous, c'était la première fois qu'il y avait cette formation chargée de communication e-sport. Du coup, il y avait un projet fil rouge. Sur toute l'année, qui était à la fin de l'année, on devait créer un événement e-sport de A à Z. Et après, tous nos cours tournaient autour de ça, entre guillemets, comment on va faire la communication en utilisant du coup des outils comme Photoshop, InDesign, Illustrator, faire du montage vidéo, des choses comme ça. Et après, on avait des cours aussi sur les réseaux sociaux, comment gérer tel ou tel réseau social, un réseau social, comment communiquer sur Facebook, comment communiquer sur Twitter, on communique pas de la même manière, on communique pas aux mêmes horaires, c'est pas les mêmes cibles, des choses comme ça. Et du coup, on avait ce gros projet, et donc tous nos cours, par exemple, quand on avait des cours de montage vidéo, au lieu de faire des vidéos un peu bateau juste pour s'entraîner, ben on s'entraînait directement à produire des vidéos qui nous serviraient pour l'événement. Et pareil pour les cours de montage photo, des choses comme ça.
Voilà, donc il y a des, comment dire, toute une dimension donc de stratégie aussi. On ne fait pas de la com pour faire de la com. Vous l'expliquez, c'est dans le cadre du projet Fil Rouge, création d'un événement e-sport à la fin de la formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, vous venez de dire qu'on ne communique pas sur les réseaux sociaux de la même façon, mais est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé en entrant en formation ? Vous avez découvert sur des stratégies de communication ?
Bien sûr, il y a tout un plan de communication à créer selon les réseaux utilisés ou les moyens de communication, notamment site internet, réseaux sociaux, affichage publicitaire ou autre. Donc chaque moyen de communication sont différentes les unes des autres. Aussi, tout dépend le ciblage qu'on souhaite atteindre. Donc il y a vraiment une grosse stratégie derrière. Nous, notamment, on a la chance d'être 14 dans notre formation. Donc c'est vrai que... Et on a des visions que, enfin, moi, pour ma part, je peux avoir des visions sur certains points de vue, mais Théo, à côté de moi, lui, peut en avoir d'autres que moi, j'avais pas, donc c'est vraiment complémentaire. Et c'est... Vas-y, Théo, du coup.
Ouais, c'est vrai qu'on a été placé beaucoup sur le digital, parce que c'était aussi la majeure partie de notre activité, si je puis dire. Mais on a eu pas mal aussi de physique ou de print ou de choses comme ça. Et enfin, il y a une partie par exemple de référencement que je connaissais pas du tout et que j'ai appris grâce à la formation aussi, où il y a plein de choses que je connaissais peut-être pas forcément sur les stratégies de communication. Et c'est vrai que au final ça me faisait un peu peur quand j'ai vu le mot e-sport dans la formation, parce que en général quand on voit ça dans une formation, c'est jamais très bon signe, ou enfin c'est un peu des arnaques, si je puis dire, ou des trucs comme ça. Et en fait, je me suis très vite aperçu que là, pas du tout. Et justement, c'est ça qui était bien. Et on a beaucoup travaillé sur l'aspect chargé de com, en fait, mais dans le domaine de l'e-sport, qui est quand même un domaine particulier où il y a des codes à respecter, etc., etc. Et justement, c'était assez marrant d'apprendre tout ça aussi, quoi.
Tu dis arnaque, c'est parce qu'il y a d'autres écoles, peut-être privées en France, qui proposent ce genre de formation et qui utilisent l'appât de l'e-sport pour attirer des étudiants. J'avoue ne pas m'être renseigné sur les formations qui existent dans ce domaine, mais vous l'avez peut-être fait. Il existe des choses un peu...
Il y a beaucoup de formations pour devenir joueur pro ou des trucs comme ça, mais où c'est des stages de quelques semaines, etc., etc., mais... Je pense pas qu'en quelques semaines tu deviennes un joueur pro, quoi.
Ouais, en fait, je pense que je rejoins un peu ce que tu disais sur arnaque, entre guillemets, c'est que rien que le terme e-sport, il est hyper récent. Et du coup, on sent que les politiques, entre guillemets, ils essayent de mettre la main dessus pour dire « Hey, regardez, on fait de l'e-sport, venez les jeunes, c'est trop bien. » Alors qu'ils savent pas forcément exactement ce qu'il faut faire derrière. Et c'est un milieu qui est en pleine construction, qui a quasiment pas de base créée, solide. Du coup, des formations comme celle du CFIM, celle-là, elle a été vraiment réfléchie. Et on sent que c'est poussé au maximum. Tous les intervenants qu'on avait, sur tous les cours qu'on avait, ils avaient tourné tous leurs cours autour de l'e-sport. On n'avait pas vraiment de cours juste de montage vidéo. C'était vraiment... Tout était appliqué à l'e-sport pour qu'on soit dans le bain de l'e-sport tout au long de l'information. Et c'est ça qui était hyper intéressant. Et on sentait que tous les intervenants, c'était pas juste des profs qu'on pourrait avoir au lycée ou en amphi, des choses comme ça. C'était vraiment des professionnels du milieu.
Et des passionnés aussi.
Et des passionnés. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Et on n'était pas juste... Il n'y avait pas une relation étudiant-prof, quoi. Il y avait vraiment une relation de pro à pro. Ok, je connais ça, je vais vous expliquer pourquoi je connais ça, comment je le mets en place dans l'e-sport. Et comment c'est à vous de le mettre en place maintenant. Et ça, c'était hyper intéressant, et du coup, c'est beaucoup plus facile de suivre. Moi, j'ai jamais été scolaire de toute ma vie à l'école, et j'avais un peu peur de réattaquer une formation à 27 ans. Et en fait, pas du tout, c'était trop bien, parce qu'on était entre adultes, on comprenait les choses, et il n'y avait pas cette hiérarchie de vous êtes les étudiants et nous, on est les profs, vous nous écoutez, et puis c'est tout. Il y avait vraiment, on travaillait ensemble, quoi, pour créer un truc. Donc c'était hyper intéressant.
Je sais pas pour la première promo, mais nous, on a eu beaucoup de cas pratiques aussi, beaucoup de petits exercices qui étaient, bah, au final, qui nous a filé pas mal d'expérience, et je trouvais que c'était, enfin, intéressant dans le sens où ça nous mettait directement en situation. Et...
ouais, c'est ça, c'est qu'on avait jamais juste un cours théorique de qu'est-ce que c'est la com. C'était vraiment, ok, on va voir ce point-là de la com, comment on le met en place, allez, faites cet exercice. Nous, on avait un truc tout bête à faire, un photomontage où on devait faire des figurines pop à l'effigie de nos collègues de classe. Donc c'était hyper drôle à faire. On reste dans la culture geek, tout ça, donc c'était très cool à faire. Et c'était pas juste, ok, Photoshop, ça marche comme ça, ce bouton-là, il sert à ça, ce bouton-là, il sert à ça. C'était vraiment, ok, on vous montre comment ça marche, maintenant, essayez de le mettre en place pour faire un truc un peu fun. Et c'est trop bien.
Donc en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que l'idée, c'est d'être compétent ou sortir de la formation et potentiellement d'être tout de suite employable, mais que ce soit dans le e-sport ou pas, en fait. C'est-à-dire que vous êtes des chargés de communication avec une spécialité e-sport, mais vous avez toutes les compétences en com.
Tout ouais, à fait.
C'est ça.
En fait, l'intitulé de la formation, donc c'est chargé de communication e-sport, c'est sûr que ça peut concerner les passionnés de jeux vidéo et d'e-sport notamment. Mais il faut savoir que cette formation-là, en fait, on apprend tellement de choses. Donc, bah, nous, en l'occurrence, c'est dans l'e-sport, mais ça acquit aussi toutes les capacités pour être juste dans la communication globale pour n'importe quelle société. Donc, c'est très formateur et c'est très intéressant aussi pour tous les domaines.
D'ailleurs, il y a aussi, vous l'avez dit, des stages. Donc, est-ce que vous voudriez nous parler un peu des stages que vous avez faits ou que vous êtes en train de faire ?
Ouais, je vous laisse commencer.
Bah moi, pour ma part, je suis toujours en recherche de stage, donc je pourrais pas vous orienter pour ça.
Non, mais alors, avis à la population.
Tout à fait, tout à fait.
Pour ma part, là, les stages, c'est en cet été, c'est 2 mois. J'ai trouvé un stage dans un musée. Donc, c'est un musée dans lequel je travaille déjà, et ils voulaient refaire un site internet et lancer des réseaux sociaux aussi. Donc, on est parti sur toute la stratégie... sur ça, sur les réseaux et sur le lancement du site internet, etc. Et il y a quelques documents aussi de com physique à refaire et à revoir. Donc il y a tout cet aspect-là sur la com. Mais j'avoue que le fait que ce soit enfin, l'été, ça n'a pas été facile justement pour trouver des stages. Mais après, je sais pas si tout le monde a trouvé dans l'e-sport non plus. Parce que, personnellement, j'avais beaucoup cherché dans l'e-sport. Et en fait, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est des petites équipes qui se lancent, soit c'est déjà des grosses équipes qui sont déjà bien implantées et qui n'ont pas forcément besoin, quoi. Et parce que c'est le top du panier, donc voilà. Et sinon, après, dans les éditeurs de jeux vidéo aussi, il y a beaucoup... y en a beaucoup qui cherchent. Mais c'est un domaine assez restreint aussi. Enfin, je veux dire, justement, comme on disait tout à l'heure, vu que c'est certains codes et un certain univers assez particulier, c'est aussi, je pense, difficile d'y rentrer. Enfin, je sais pas, c'est peut-être mon avis personnel. Mais...
Non, moi, pour ma part, je pense que c'est pas difficile d'y rentrer. C'est vraiment juste les périodes. En l'occurrence, notre stage, c'est juillet-août. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est les vacances. En plus de ça, il y a la rentrée en septembre. Donc c'est très difficile de trouver pour une période de stage dans ces périodes-là. Mais nous, dans notre promo, il y en a beaucoup qui ont trouvé des stages déjà. Pas forcément dans l'e-sport, mais dans le domaine du jeu vidéo ou autre. Non, tout est possible. Je pense que tout est possible.
Et pour ma part, moi j'ai fait un stage à Tours chez Pixel Player, qui est un cluster du jeu vidéo et du divertissement digital et de l'e-sport qui s'est créé à Tours justement, qui a été créé par des pointures du jeu vidéo dans la région. Et donc moi j'ai participé en tant que stagiaire à la création de ce cluster, ça a été créé l'année dernière, là en fin d'année 2021. Et donc mes missions, c'était notamment de la création du logo, la charte graphique, essayer de trouver comment on peut mettre en place des meetings un peu récurrents pour ramener... Tous les acteurs du jeu vidéo et du divertissement digital de la région pour qu'ils se rencontrent et qu'il y ait vraiment une cohésion entre tout le monde pour créer un espèce de réseau où si on a besoin d'aide sur un point, bah, on va chez Pixel Player, on met un message, on dit écoutez, je suis un studio de jeux vidéo, j'ai besoin d'un chargé de com, j'ai besoin d'un stagiaire, j'ai besoin de matériel, est-ce que vous connaissez des gens dans la région qui peuvent m'aider? Et c'est vraiment mettre en relation tous les acteurs pour essayer de dynamiser un peu la région au niveau du divertissement digital. Donc moi j'ai participé à la création de Pixel Player.
Et alors par curiosité, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas Pixel Player, c'est qui ces pointures en jeu vidéo?
Alors je dis jeu vidéo et au sens large, il y a jeux vidéo et divertissement digital. Il y a notamment Vincent Marty qui est un ancien directeur de ESL, qui est un des plus gros organisateurs d'événements e-sport au monde. On a aussi Ferrol Chevalier qui est le directeur de Maxnomic, qui est une entreprise tourangelle qui fait des sièges ergonomiques pour gamers. Et c'est la marque la plus réputée en France et peut-être même dans le monde de siège gaming, et d'autres acteurs qui se sont rassemblés, dont le CFIM aussi, fait partie de Pixel Player, pour justement essayer d'accompagner aussi les jeunes sur des orientations potentielles, notamment pour des stages.
Voilà, donc on voit une économie qui se lance, mais alors justement je voulais réagir à ce que vous disiez tout à l'heure sur un stage dans un musée. Alors peut-être on peut se dire qu'avec cette formation, y a des nouveaux métiers aussi à inventer, parce que là on imagine musée, médiation, jeux vidéo, contenu digitaux, et de se dire bah tiens là, est-ce qu'on peut pas inventer par exemple un serious game pour jouer dans le musée, voilà, un escape game ou des choses comme ça. Donc ça, est-ce que ça peut être des choses intéressantes?
Ah oui, bah après tout est envisageable. Je pense que justement être force de proposition aussi, c'est parce que comme c'est un domaine aussi qui est nouveau, où des fois il y a certaines personnes qui ne s'y connaissent pas forcément dans la communication digitale, et ils vont proposer telle ou telle chose, mais ils vont pas penser à d'autres, et le fait de leur proposer, c'est vrai que ça ouvre peut-être plus de possibilités. Donc ouais, tout est envisageable, c'est vrai que...
Ça me fait penser... Typiquement pour un musée, entre guillemets, les gens qui gèrent des musées sont des personnes qui sont pas jeunes, entre guillemets. Et typiquement, TikTok, c'est un réseau qui est apparu il y a pas très longtemps et qui est peuplé de jeunes. Vraiment, c'est inimaginable comment tous les jeunes utilisent TikTok. Et c'est un média qui est encore trop peu utilisé par les sociétés qui sont déjà en place depuis des années. Parce que ça fait peur, c'est un truc qui est tout récent, alors que il y a un nombre infini de jeunes qui regardent TikTok et qui consomment TikTok toute la journée, et j'en fais partie. Et du coup, on se dit, c'est un nouveau réseau, on ne sait pas l'utiliser, et typiquement, des formations comme la nôtre peuvent aider à comprendre comment utiliser ce réseau social pour aller chercher les jeunes et les amener dans des musées, par exemple.
TikTok ou les réseaux en général d'ailleurs, parce que je regarde le musée là justement duquel on parle a pas du tout de réseaux sociaux, et justement là c'était l'idée de se lancer là-dedans, mais ils s'y connaissent pas du tout, et justement ils savent pas trop quel réseau prendre, quel contenu mettre aussi, et justement c'est ça qui leur faisait peur, c'était de pas forcément avoir assez de contenu pour pouvoir tenir à jour et mettre à jour leur réseau, etc. Et justement, je leur disais, mais vous êtes un musée. Enfin, visuellement, vous avez masse de choses à montrer, quoi. Donc, il suffit juste de trouver le bon réseau sur lequel orienter les gens. Et après, c'est bon, quoi. Mais je pense que, ouais, il y a ça aussi qui fait peur. Le monde des réseaux sociaux, je pense, qui est un peu méconnu. Où on s'en est aperçu pendant la formation aussi. Généralement, on a plus ou moins nos affinités sur les réseaux. On est plus ou moins sur tel ou tel réseau. Du coup, on a peur de se lancer sur un nouveau qu'on connaît pas trop, ou on connaît pas les codes, etc. Donc, c'était assez marrant aussi.
Bah, surtout que le risque, c'est de faire des trucs assez ratés. Hein. Je pense TikTok, il y a eu quelques exemples peut-être d'élus, en tout cas, qui ont voulu se lancer. Et du coup, c'était pas forcément toujours pertinent.
Voilà. Et mais ça tombe bien parce que dans nos cours, on avait, nous en tout cas, je sais pas si vous l'avez eu, on avait justement la gestion de crise, entre guillemets, si jamais on est chargé de com et que pour une boîte et que on fait un tweet par inadvertance, on dit une bêtise qui est plus grosse que nous et les retombées sont négatives, comment on gère ce bad buzz? La gestion de bad buzz, c'est hyper important, surtout sur les réseaux où tout va hyper vite. Il suffit que tu n'aies pas vu. Par exemple, je prends le cas de Evian, qui avait fait un tweet, je crois que c'était l'année dernière, au moment du Ramadan. Et du coup, ça avait pris une ampleur énorme en disant « Mais vous pouvez pas faire de la pub pour de l'eau alors qu'il y a des gens qui sont en train de faire le Ramadan, tout ça. » Et ça avait fait un effet boule de neige. Du coup, ils avaient dû rattraper l'erreur. Je sais plus comment ils avaient géré, mais ils avaient réussi à gérer la crise. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y a un tweet qui a été mal fait, entre guillemets, où on n'a pas pensé qu'il allait avoir telle ou telle retombée. Et comment on gère après, derrière. Et ça, c'est un des cours qu'on a eu aussi, comment gérer le bad buzz.
Dans le même exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête. C'était une ministre qui, à un moment, commençait à tweeter n'importe quoi. En fait, c'était son fils qui avait pris son téléphone et qui tweetait à sa place. Et voilà, ça avait été remarqué, quand même bien longtemps après. Il avait eu le temps de dire pas mal de trucs sur Twitter.
Ouais, mais là, il y a peut-être un côté, parce que ça raconte une histoire, en fait, d'expliquer « Ah bah, c'est mon fils qui a pris mon téléphone. » À la limite, peut-être que ça peut être retourné en quelque chose de sympathique. Du coup, ça peut faire marrer les gens de se dire « Ah bah, c'était son fils. »
Totalement. Par exemple, Donald Trump, il avait fait un tweet et après, il avait dû écrire trop vite et il avait écrit un mot qui n'avait aucun sens. À la fin, il avait écrit « Cov Fefe », qui veut rien dire. Avec ses doigts, il avait appuyé trop de fois sur les touches. Et du coup, après, il en a joué. Et de temps en temps, il reparlait de ce mot en disant « Cov Fefe », comme si c'était un mot qui existait. Donc il a su rebondir sur son bad buzz, entre guillemets, de mon tweet « J'ai oublié de supprimer les lettres à la fin », et il l'a réutilisé. De toute façon, on peut toujours rebondir d'un bad buzz, sauf si c'est vraiment la catastrophe, et dans ce cas-là, la technique de l'autruche, on éteint les réseaux et on se cache pendant plusieurs mois et on revient plus tard.
Voilà, il faut miser sur l'oubli des gens. Mais bon, c'était Donald Trump ou c'est ses communicants qui ont eu cette idée à l'histoire de
l'histoire. Allez savoir.
Je vous propose de faire une première pause musicale. Donc je me tourne vers toi, Sébastien. Tu nous as choisi plusieurs sons. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Ouais, alors tout à l'heure, on a parlé des sièges. On peut aussi parler d'un autre outil indispensable du gamer, qui est le canapé aussi, quand on est à plusieurs. Donc c'est un titre qui s'appelle King Sofa. C'est du duo Danger Doom. C'était composé de MF Doom et Danger Mouse, et qui a sévi dans le rap... dans les années 2005-2006, dans un univers qui n'était pas game, mais qui était cartoon. Et donc on va s'écouter King Sofa tout de suite sur Radio Campus Tour. Chain, then kick a lungy off the tip of his timbo and trick a honey dip into a game of strip limbo. Odd, he couldn't find no remorse. A wink is as good as a nod to a blind horse. Of course, his technique was from a divine source. Never knew the price of ice or what swine cost. One guy tried to bite the heat. It's when he discovered the other white meat. Oh, the one they hate so well. He sure keeps his cycle like the old Bates Motel. They came to ask him for at least some new tracks, but only got confronted by the beast with two backs. Knock, Mouse is a made man. Villain laid it down like the best laid plan. Bell the cat, who the hell is that near the middle? Got y'all, but it's not all bear and skittles. Prepare the vittles, got riddles and spittles. Crystal clear to the jot or the tittle. It's hot off the griddle. Came to take the cake whether it's a lot or a little. Kaboom, Doom is nervous large. You could tell by his blooming room service charge. Dark and tall to boot. The only thing was wrong is he was bald as a coot. Used to ran a van from Peter Pan to Red and Tan. And keep the human foot for his dead man's hand. This was when the mask was brand spanking new. Before it got rusted from drinking all the brew. Stankin' too, pew. Excuse you, any room in the class front? Four blasts of the blunt, shrooming since last month. Doom a human in the mask, on the stunt. Danger zooming past, mad fast on the hunt. Keep your streaks, we got the city neatly conquered. Discreetly with the CD till they be completely bonkered. The fans demanded it, handle it, swallow it. His own brandish it, if only he could bottle it. Nah, she could get messy. Feds try to torture him for the secret recipe. He said it's no use, I only know half. No speak of the English, I only do the math. Felt no pain, his brain was saturated with cocaine and Rogaine. He said, try scam, no thing, three card dead. Fly man, go for bling, he got bled. Eye jam, over sting, see spots red. I am sofa king, retarded.
Retarded.
Now repeat all very fast, please.
I am sofa king.
Faster.
I am retarded.
No, not so fast. So. Loses meaning.
I am sofa king retard.
You say funny thing.
Merci Sébastien pour cette pause musicale. Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Alors, avec nous en studio, Théo, Maxime et Félix, étudiants ou anciens étudiants du CEFIM. Voilà, donc la formation chargée de communication e-sport. Vous organisez un événement le 25 juin à MAM. Voilà, peut-être qu'il est temps de nous en dire plus. Alors, c'est la deuxième édition, il me semble.
Tout à fait. On va faire un peu de storytelling sur comment a été créé cet événement. Donc, à la base, on était du coup les premiers étudiants de cette formation chargée de communication e-sport au CEFIM. Et en projet de fin d'année, il s'était dit, plutôt que de juste avoir les cours, ce serait bien qu'on ait un fil rouge, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un événement à la fin de l'année. Comme ça, vous mettez en application tout ce que vous avez appris. Du coup, le CEFIM nous avait donné un budget, des locaux. Il nous a dit, vous avez carte blanche. Vous devez juste créer un événement e-sport et faire la com et vous gérez de A à Z. Et ça a plutôt bien marché. Ça a tellement bien marché même que on a décidé de monter une association avec les étudiants pour pouvoir recréer cet événement qui avait une identité forte, qui avait été reconnue par les joueurs et par les politiques de la région, notamment était venue par le biais de François Bonneau, président de la région, qui était venu sur place voir l'événement, parce que la formation est financée par la région, Centre Val-de-Loire. Et du coup, Monsieur le Président François Bonneau était venu sur l'événement, il avait beaucoup aimé l'événement, et nous avait incité à le reconduire. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a monté l'association en fin d'année dernière, donc c'est tout récent, et on a décidé de repartir sur cet événement, et on s'est mis d'accord avec le CEFIM pour que, d'une manière ou d'une autre, il y ait une partie de l'événement qui soit mise à disposition des nouveaux étudiants en tant qu'outil pédagogique pour qu'ils aient aussi ce fil rouge comme nous on l'a eu, mais comme ça on peut les accompagner et ils n'ont pas tout à faire de A à Z comme c'était le cas pour nous, parce que c'était du boulot et on s'en était pas rendu compte tout de suite, mais ouais, c'était beaucoup de boulot et parce qu'on a dû tout créer de A à Z en fait. Et nous, on voulait pas juste faire un petit événement avec 2-3 fauteuils, 2-3 chaises et 2-3 manettes. On s'était dit, on va faire les choses bien. Et du coup, voilà, cette année, on a décidé d'avoir un espace entier dans l'événement qui est dédié à la nouvelle promotion. Et ils ont tout géré de A à Z sur cette partie-là, donc ils vont pouvoir vous en parler un peu plus.
Pour le coup, la partie de l'ancienne promo, c'était plutôt la partie tournoi. Et parce qu'ils ont décidé de faire un tournoi l'année dernière pour la première édition. Et du coup, ils nous ont chargé de toute la partie animation à côté. Donc on a fait plusieurs propositions, on leur a proposé plusieurs trucs. Il y a une proposition qui a été retenue sur du rétro gaming du coup. Et du coup, on est parti là-dessus. Après, on s'est tous réunis, on a tous commencé à... chercher les animations, travailler sur la com aussi,
faire des débriefs, justement chercher des idées cohérentes aussi avec le projet du coup de One Shot. C'est vrai que donc nous on est parti sur une thématique de rétro gaming temporelle sur 10 décennies, enfin sur 3 décennies différentes. Donc il y aura les années 80 à 90, 90 à 2000 et 2000 à 2010. On va proposer donc 3 jeux différents sur des consoles différentes dans chaque décennie. À côté de ça aussi, on aura d'autres activités, notamment donc on aura une partie papercraft, une partie quiz, une partie chasse aux pixels dans tout l'événement. Donc pas juste dans une zone, mais les gens pourront, donc les adultes comme les plus petits, donc, pourront se balader dans tout l'événement tout en faisant leur chasse. Il y aura aussi donc une partie restauration.
Il y avait un aspect caritatif qui avait été pris la première année, qui a été repris cette année encore une fois, c'est avec Dessine-moi la high-tech. Donc là, on a décidé de faire des paliers de défis. Et une fois que certains paliers seront atteints, une certaine somme sera versée à l'association Dessine-moi la high-tech. Sinon, à côté de ça, on avait les cours. Du coup, on mettait en relation les cours avec l'événement aussi. Donc tout ce qu'on avait en com en cours, comme disait Félix tout à l'heure, tous nos cas pratiques, tous nos exercices, on mettait... nos exercices à profit pour l'événement aussi. Donc ça a été...
beaucoup de travail.
Ouais.
Ça a été beaucoup de travail, même du travail personnel, parce que justement, autre que le projet final, il y avait aussi donc, les cours à côté, donc des cours différents, donc on devait aussi apprendre ce qu'on devait faire. On a fait beaucoup de cours par rapport au projet, mais aussi il y a eu beaucoup de travail personnel à faire chez soi ou même le week-end. Donc beaucoup de travail et hâte de l'événement.
Ouais. Du coup, pour revenir sur l'événement, pour l'expliquer de manière générale, il est en deux parties, entre guillemets. Il y a une partie, donc LAN, donc un tournoi physique, tournoi de jeux vidéo physique, donc une compétition avec les meilleurs joueurs possibles, avec un cash prize à la clé, donc de l'argent à gagner par équipe. Donc ça, c'est la grosse partie centrale, et nous, on a fait en sorte qu'elle soit visible par le public. C'est-à-dire que la deuxième partie, c'est ouvert au public, c'est l'entrée est gratuite pour tout le monde peut venir, de 7 à 77 ans, comme on dit. Et du coup, il y aura plein d'animations, dont le stand qu'ils ont créé, Pixel Revenge, avec toutes leurs activités. On a d'autres activités à côté, il y aura un stand de VR, donc réalité virtuelle, il y aura un simulateur de course, il y aura des escape games, il y aura plein de choses à faire. Et en fait, notre objectif principal, entre guillemets, c'est d'avoir cette LAN compétitive et toute la partie ouverte au public qui est un peu là pour éduquer, entre guillemets, les gens sur qu'est-ce que l'e-sport, qu'est-ce que le monde du jeu vidéo. C'est pas juste des ados boutonneux dans leur chambre qui jouent toute la journée. C'est autre chose. On a des conférences et des tables rondes qui vont être diffusées aussi sur Twitch avec des gens qui sont dans le milieu depuis des décennies maintenant. Et qui vont expliquer que justement, l'année dernière, on avait fait une conférence sur les métiers de l'e-sport. Et les métiers de l'e-sport, il y en a une centaine différents. Il n'y a pas juste joueurs et coach. Il y a des kinés, il y a des thérapeutes, il y a les gens qui s'occupent des réseaux, il y a des gens qui s'occupent de la com, justement, comme nous. Enfin, il y a des centaines de métiers différents. Et que tous ces métiers s'articulent autour de, justement, la compétition e-sportive, donc la compétition de jeux vidéo. Et notre but, c'est de montrer aux familles que les enfants peuvent devenir des acteurs de l'e-sport. Comme avant, les enfants voulaient devenir footballeurs. Je veux devenir Zidane, je veux devenir Thierry Henry. Maintenant, ils veulent devenir Gotaga, ils veulent devenir streamer, ils veulent devenir Zerator, tous ces grands noms, pour leur montrer que c'est possible, que c'est difficile, et que c'est... pas juste des rêves de gosse comme on peut les avoir quand on voulait devenir footballeur. À mon époque, quand je voulais devenir footballeur, il y avait sport-études. Après, on était sélectionné, ainsi de suite. Il y avait des échelons à passer. Et bah pour l'e-sport, c'est pareil. Il y a plein de métiers différents et il faut passer par tous les échelons. Mais c'est possible.
Après, les enfants, ils veulent toujours devenir leurs idoles sportives. Bah avec la différence, j'ai lors d'un atelier radio... qui était à BAM d'ailleurs, mais qui était pour les assises du journalisme. Il y avait des élèves qui parlaient de jeux vidéo lors de l'atelier radio. Ils parlaient de leur passion, donc jeux vidéo, mais le sport aussi. Et j'ai demandé à une jeune élève, elle avait fait une petite chronique sur Kylian Mbappé. Et donc je lui demande dans quel club joue Kylian Mbappé. Et elle m'a répondu, il joue à FIFA. Parce qu'en fait, elle avait pas... pour elle, Kylian Mbappé, c'était un joueur dans une console de jeu. Mais que c'est aussi un vrai joueur de foot qui joue au Paris Saint-Germain. Enfin, ça m'avait moins interpellé dans le sens où les frontières, de coup, deviennent floues entre l'impact qu'a pris un jeu comme FIFA et avec des équipes pro, avec des clubs, maintenant des clubs, des vrais clubs de foot qui ont leur section e-sport et la perception que peuvent en avoir de jeunes enfants. Le joueur de foot et le joueur dans le jeu de foot.
Ah non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, il faut savoir que le jeu FIFA, c'est le bien culturel le plus vendu au monde chaque année. C'est un jeu vidéo. Donc c'est hyper intéressant, on pourrait penser que c'est des livres, de la musique, du cinéma. Non, c'est FIFA, un jeu de foot, un jeu vidéo, qui est le bien culturel le plus vendu chaque année au monde. Donc c'est hyper intéressant. Et pareil, les enfants d'aujourd'hui, les petits, je dis... j'ai encore vu sur TikTok il y a pas longtemps là un petit qui dit oh regarde c'est Spider-Man et sa maman lui demande mais tu sais d'où ça vient Spider-Man? Oui ça vient de Fortnite. Et en fait c'est ça, les jeux maintenant ils essayent de faire en sorte que tout l'univers geek entre guillemets de la pop culture c'est transversal et Fortnite c'est l'exemple type. Et du coup dans Fortnite maintenant il y a Stranger Things, il y a Obi-Wan, il y a tout ce qu'on connaît qui est dans un seul jeu. Donc forcément les gens les plus jeunes je dis pas qu'ils sont perdus, mais ils ont tous les repères que nous, on avait séparément. C'est tout maintenant au même endroit, entre guillemets. Donc c'est pour ça que la petite, elle dit Mbappé, c'est dans FIFA. C'est un peu drôle, mais elle a pas tort en même temps. Parce que Mbappé, il est bien dans FIFA. C'est intéressant.
Je vais continuer de mettre le doigt sur, sur les failles spatio-temporelles qui existent grâce à ça. Vous parliez de rétro gaming, il y a aussi des jeux pas du tout rétro, tout à fait de maintenant, qui remodélisent des périodes historiques, y compris sportives. Je suis tombé il y a quelques jours sur une vidéo d'un jeu, dont j'ignore le nom, hein, d'un jeu de Formule 1, qui va être très très actuel compte tenu des graphismes, mais qui reproduit d'anciennes saisons de Formule 1, et il y avait une caméra embarquée avec Ayrton Senna, et en fait j'ai eu du mal à, en fait, au début à comprendre qu'en fait c'était c'était un jeu, parce que moi en fait je cherchais des vraies images, et donc j'ai vu, j'ai compris aussi qu'il y avait des donc là je pense qu'on est vraiment sur du niveau pro, des gamers qui reproduisaient en fait des vraies courses qui ont eu lieu, mais sur des jeux qui permettent graphiquement en plus de le reproduire, et pareil la frontière est très ténue, enfin en tout cas moi je me suis laissé un peu piéger.
Ah non, c'est les technologiquement c'est impressionnant ce qu'ils font maintenant dans les jeux vidéo, et tu parlais de reconstruire, mais il y avait eu aussi, je crois que c'était il y a 2 ans à Tours, un truc qui était hyper intéressant, c'était Solary qui avait mis ça en place. Solary c'est une équipe e-sport professionnelle qui est basée à Tours, une des plus grosses équipes de France, on salue s'ils nous écoutent, venez à notre événement s'il vous plaît. Et ils avaient fait tous les châteaux de la Loire, ils les avaient recréés dans Fortnite. Donc les châteaux de la Loire qu'on connaît si bien ici, ils avaient été recréés dans le jeu. Et on avait eu justement François Bonneau, donc président de la région, qui avait joué à Fortnite et qui visitait les châteaux de la Loire virtuellement. Et pareil, ça c'est... Les jeux vidéo sont devenus un outil de communication pour parler aux jeunes. Et donc là, on avait plein de jeunes qui jouaient à Fortnite dans les châteaux de la Loire. Donc c'est trop bien parce que les jeunes d'aujourd'hui ils vont pas dans les châteaux de la Loire, ils vont pas dans les châteaux, ils vont pas dans les musées. Exactement.
Ce que vous disiez sur le stage au musée, là il y a un marché à prendre. D'ailleurs je reviens sur le profil des joueurs, ce que vous expliquiez, donc il y a un montant à gagner, il y a quand même des sous pour cette compétition. Est-ce que vous voulez nous dire combien, si c'est pas indiscret, et aussi de rappeler voilà, que c'est des joueurs professionnels j'imagine, donc du coup ils en vivent, enfin ils essaient en tout cas, donc,
tout à fait. Alors, on peut le dire combien il y a, c'est sur notre site aussi. Il y a 2000 euros de cash price, en argent, et on a aussi pas mal de lots à faire gagner. On a beaucoup de lots, au total, on a plus de 3000 euros de lots à peu près à faire gagner en tout, à tous les joueurs. Alors, il y a des joueurs pros, il y a des joueurs semi-pros, et il y a des joueurs totalement amateurs qui peuvent faire le tournoi. On a fait en sorte que un tournoi qui soit ouvert à tous à partir de 16 ans. Si on a entre 16 et 18 ans, il faut un accord parental pour le cash price, c'est obligatoire. Mais sinon, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire que si vous voulez participer, vous montez une équipe, c'est possible.
Une équipe de combien ?
3 joueurs. On a autorisé, donc c'est des équipes de 3, et on a autorisé aussi d'avoir un coach, un accompagnateur, qui peut venir aussi.
Voilà, bon, et on s'affrontera sur quel jeu ?
Rocket League.
Ok.
C'est sur Rocket League. En fait, c'était un choix du CFIM à la base sur la première édition, parce que Rocket League, c'est pas violent. C'est très simple à comprendre. C'est des voitures qui jouent au foot. Le pitch, il s'arrête là et on a compris ce que c'est. Et en fait, c'est un jeu qui est hyper facile à prendre en main, très facile à jouer rapidement comme ça si on veut découvrir, mais qui est très difficile à maîtriser. Easy to learn, hard to master. C'est comme ça qu'on définit ce genre de jeu. Et effectivement, quand on voit les joueurs professionnels jouer, ça n'a rien à voir avec nous quand on joue simple gamer lambda.
D'ailleurs, sur les deux parties de l'événement, est-ce que c'est le même profil de joueur qui va jouer à ce jeu-là en équipe et au rétro gaming ? Est-ce que c'est les mêmes joueurs ?
Je pense pas. Je pense que les gens qui vont faire le tournoi, c'est vraiment des compétiteurs. Et après, le rétro gaming, la VR, tout ça, c'est plus ce qu'on appelle des casual, donc des casus. Donc les gens qui jouent comme ça pour se détendre, entre guillemets, pour s'amuser.
Le divertissement, ouais.
Ouais.
Et on a ciblé aussi, par rapport à la com qu'on a fait, justement, vu que notre événement ou nos parties animation, il y avait un axe assez famille, ou aussi pour les enfants, etc., etc. On a aussi orienté notre com par rapport à ça, et c'était pas forcément la même direction que pour le tournoi compétition, c'est vrai que... C'est vrai que là, c'était plus visé les joueurs compétitifs et qui étaient plus à fond dans le tournoi, alors que nous, c'était plus famille, etc., ou divertissement.
Découverte, redécouverte. Donc, ouais. En fait, découverte pour ceux qui connaissent pas le jeu vidéo ou d'où ça vient, pour redécouvrir justement qu'est-ce qu'il y a eu avant. Et la redécouverte, du coup, bah, pour les plus anciens, donc notamment pour les parents ou même des plus âgés, redécouvrir un peu leur enfance par rapport à ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y a maintenant, donc en l'occurrence, bah, les compétitions e-sport, qui n'existaient pas avant, et aussi bah, les jeux actuels d'aujourd'hui. Donc on est parti un peu sur un axe découverte et redécouverte.
Ouais. Et alors, pour aller chez les auditeurs, c'est quoi les jeux auxquels on pourra jouer dans cette zone rétro gaming?
Justement, j'allais y venir. On a essayé de choisir un peu des grands titres de des trois grosses générations qu'on a prises. Du coup, sur les premières générations, qui est plutôt borne d'arcade, etc., il y a du Pac-Man, il y a du Tetris, il y a sur borne d'arcade directement. Après, dans les années au-dessus, il y a du Sonic, du Mario, il y a les premiers, le premier Sonic, il y a du Street Fighter aussi sur les consoles d'origine. Ensuite,
il y a aussi du Tony Hawk.
Ouais, pour les années un peu plus au-dessus, du coup, on a choisi du Tony Hawk.
Du Burnout aussi pour les jeux
de mobile. Ça, c'était les premiers jeux PS1 avec qui géraient de la 3D correctement, sauf Tony Hawk et
Burnout.
Ouais.
Ouais, non, c'est sûr, mais c'est intéressant en plus de voir toute cette évolution, parce que on en reparlait tout à l'heure là de Fortnite. Dans Fortnite, par exemple, il y a eu Lara Croft il y a pas longtemps qui a été ajoutée dans le jeu, et donc les jeunes qui découvrent Lara Croft, nous on la découvrait il y a 20 ans, pixelisée comme jamais, et maintenant elle est dans Fortnite, quoi. Donc c'est intéressant, c'est de faire ce pont intergénérationnel entre nous, on jouait entre guillemets, et nos enfants qui jouent maintenant. On joue pas du tout au même jeu, mais pourtant on a les mêmes références. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant.
Ouais, l'attrait en plus va pas être focalisé forcément. C'est-à-dire que les consoles évoluent. Il y a les enfants qui chez eux ont des consoles dernier cri, et du coup ce qui va susciter des fois chez eux l'intérêt, et c'est justement de jouer à des vieux jeux, et qui va créer presque l'émoi chez certains de savoir que chez un tel, chez tel ou tel copain. Le papa il a encore la Mega Drive, ou il a encore la NES, et qu'on peut jouer à Mario ou à Sonic, et les enfants se battent presque pour pouvoir jouer à ça, parce qu'en fait c'est ça et la rareté par rapport aux jeux qu'ils ont sur leur tablette, sur leur console dernier cri.
Ouais, c'est sûr, mais même quand nous on était enfants, si on n'avait pas une console et qu'on avait un copain qui avait la N64, on n'avait qu'une envie, c'était de passer les journées chez lui dans son garage, quoi.
Alors cette conférence, parce qu'on nous a annoncé une conférence aussi, ça sera sur quoi ?
La conférence, ce sera sur le bien-être dans les jeux vidéo et dans le milieu professionnel, entre guillemets, au niveau de l'e-sport, comment on est pour être bien, entre guillemets, il faut être bien installé, etc. etc. Donc ce sera géré par des professionnels du milieu. Nous en parlerons le jour de l'événement.
Ouais. L'ergonomie du jeu vidéo. En tout cas, c'est amusant parce que ouais, donc ergonomie du jeu vidéo, joueur professionnel, s'amuser en famille. On voit, il y a un clin d'œil peut-être aux parents aussi qui seraient paniqués ou déprimés parce que leurs enfants veulent faire une carrière dans ce domaine. Donc voilà, il y a une.
Non, puis le bien-être, c'est pas que forcément plus l'ergonomie. Il y a aussi plein de choses derrière, parce que les joueurs professionnels, c'est des athlètes entre guillemets. Quand on regarde leur planning, les vrais professionnels. Ils ont 4 heures d'entraînement le matin, d'entraînement intensif. Après, ils ont 2 heures de séance de sport. Après, ils doivent manger certaines choses. Ils ont des nutritions à respecter. Ensuite, ils ont des matchs le soir. Ensuite, la nuit, ils vont re-regarder leurs matchs pour voir les erreurs qu'ils ont fait. Et c'est vraiment tout ça. Et ça peut mettre une pression aussi intellectuelle. Et du coup, il y a des psychologues qui les aident. C'est vraiment comme des athlètes professionnels de foot, quoi. Et à peu près les mêmes calendriers. Sauf qu'au lieu d'être sur un terrain, ils jouent sur le terrain.
Okay, j'aimerais bien refaire une émission avec des joueurs professionnels. Donc je crois que vous aviez émis l'idée, peut-être pour la prochaine édition, de faire une émission radio sur l'événement. C'est une bonne idée, je pense.
Ouais, ça pourrait être hyper intéressant. Nous, on est ouverts à tout, justement. On en parlait tout à l'heure. D'avoir une émission lors de l'événement, ça peut être intéressant, parce que les joueurs, quand ils sont éliminés ou quand ils ont gagné, ils peuvent venir après discuter, expliquer comment et qu'est-ce qu'ils ont fait pour gagner, pourquoi ils ont perdu, raconter leur quotidien aussi de joueurs professionnels. Ça peut être très intéressant.
Je propose qu'on poursuive suivent avec une pause musicale pour l'ergonomie justement musicale de l'émission. Qu'en penses-tu, Mélissa?
Alors avant de poursuivre sur cette pause musicale qui pourra peut-être conclure l'émission, moi je voudrais savoir quelles sont les ambitions pour cette association, puisque c'est quand même une asso qui a été créée par des étudiants, puis qui continue de vivre grâce à des professionnels hein, dans la communication e-sport. Donc je voudrais savoir quel est l'objectif 2023, 2015, enfin 2025 peut-être.
Alors, on a des objectifs... Clair, c'est que cet événement, on va essayer de le faire grossir parce qu'il commence déjà à être reconnu dans le milieu de l'e-sport. Donc le but, c'est de le faire grossir et de l'améliorer, de le perfectionner et d'en faire quelque chose de vraiment récurrent et stable et reconnu par tout le monde. Et après, on a fait en sorte dans nos statuts aussi de pas se limiter à juste des tournois entre guillemets, des événements. On a plein d'idées qui nous passent par la tête tous les jours. On aimerait bien aller dans les écoles, faire tester de la VR, de la réalité virtuelle aux élèves pour leur faire visiter par exemple des villes en réalité virtuelle puisqu'ils peuvent pas forcément y aller avec les écoles, des choses comme ça. On a fait justement de la VR aussi et de la réalité virtuelle avec les jeunes sapeurs-pompiers en mai dernier. Ils avaient une journée de un concours de manœuvre et du coup ils faisaient leur concours et nous on avait un petit stand à côté comme ça entre deux manœuvres ils pouvaient venir tester la réalité virtuelle, essayer de montrer tout ça. Et on a plein d'idées sur plein de choses. On aimerait bien faire plus de conférences dans l'année, des tables rondes. On parlait de, pourquoi pas, une émission de radio sur l'actualité du jeu vidéo et de l'e-sport. Enfin, il y a plein d'idées. Et on ne se limite pas à juste faire des tournois ou des événements. Après, c'est sûr que l'objectif principal, c'est de faire grossir cet événement et de le faire de manière récurrente.
Créer des postes salariés?
Oui. Ça, ce serait top, un jour. Et ouais, on en discutait avec justement François Bonneau, monsieur le président de la région. Il nous avait dit que ce serait sympa, mais il a dit ça entre deux petits fours, ce serait sympa un jour de faire des événements dans les châteaux de la Loire. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur utiliser, entre guillemets, le jeu vidéo et l'e-sport pour attirer les jeunes sur des choses qu'ils ne vont pas faire d'eux-mêmes.
Alors comment on fait pour comment dire, ne pas devenir la caution jeunesse d'un événement en fait? Dire bah ouais, on va mettre du e-sport pour faire venir les jeunes. Comment on fait pour affirmer l'identité du e-sport en fait? Parce que vous expliquiez que c'est une culture, c'est une économie. Comment on fait ça?
C'est assez difficile, mais après nous on veut vraiment être... on veut pas être utilisé pour, mais de toute façon si on sent que le projet il tourne autour de ça, on est juste utilisé pour attirer les jeunes, on va juste pas le faire. Nous, notre objectif, c'est de démocratiser l'e-sport et de faire comprendre ce que c'est aux gens et aux adultes et aux enfants en même temps. Donc si on peut le faire, on le fait. Si on voit que ça va pas rentrer dans nos clous, on n'accepte pas en fait. Mais c'est difficile à gérer, forcément.
Parce qu'on pense...
Justement, je me disais, après, les enfants, je pense qu'ils connaissent les codes aussi. Du coup... ils se rendent compte de même si c'est juste de l'e-sport qui a été posé là pour les attirer ou si justement il y a un truc quand même derrière un peu plus intéressant à aller chercher.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation. On s'était dit la première fois qu'on l'a vu, oulala, c'est bizarre parce qu'ils ont juste collé l'étiquette e-sport pour attirer du monde. En fait, pas du tout. Mmh. Et donc c'est ça, il faut savoir dénicher ce qui est vrai, ce qui est faux. Même, mais forcément, ça va pas être facile.
Justement, dans la com aussi, c'est ce qu'on disait, c'est des codes, etc. etc. Si en face, justement, les codes sont pas maîtrisés et que dans la communication, ça va se voir forcément si ça va être de l'e-sport juste pour attirer les enfants ou pas. Quoi.
Déjà, les politiques ne savent pas utiliser le terme e-sport comme il faut. Donc ça se verra tout de suite. Ils vont dire « Venez faire du e-sport avec un S majuscule et un tréma ». E-sport, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. E-sport, on dit de l'e-sport, comme on dit de l'équitation ou de l'escrime. On va pas dire de la escrime ou de la équitation. Et il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de tiret. C'est un mot comme un autre.
Voilà, c'était le tips à retenir. Donc on va faire cette fameuse pause musicale. Et voilà, il nous restera peut-être même 3 minutes à la fin pour rappeler toutes les données importantes pour aller à cet événement samedi. Qu'est-ce qu'on écoute, Sébastien?
On écoute un titre qui est sur, qui fait partie de la bande son d'un jeu vidéo que j'ai abondamment saigné il y a de nombreuses années. C'était NBA 2K9. En général, tous les jeux de basket, je les épuisais voilà, jusqu'au bout. C'est Sissy Strut, c'est un titre de funk d'un groupe, les Metteurs, c'est un groupe de la Nouvelle-Orléans, un groupe majeur du funk de la scène de la Nouvelle-Orléans qui a été maintes et maintes fois samplé par Tribe Called Quest, Cypress Hill, IPMD, Naughty by Nature. Donc on écoute ça tout de suite.
Merci Sébastien pour cette pause musicale. Alors, nous sommes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Cette émission touche presque à sa fin. Il est grand temps de vous rappeler, chers auditeurs, les détails de cet événement qui se tient le 25 juin à MAM. Donc, je me tourne vers nos invités. Voilà, c'est où, c'est quand, c'est quelle heure, ça coûte des sous, c'est quoi le programme ?
Eh ben, c'est le 25 juin à MAM. Ça coûte rien du tout. C'est totalement gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Il y aura pas mal d'animations. Donc on disait tout à l'heure, un gros stand de rétro gaming qui a été fait par les CCES 2022, qui s'appelle Pixel Revenge. Donc les pixels qui viennent prendre leur revanche.
On pourra chevaucher Yoshi et taper des bonbons de couleur avec Pac-Man.
Exactement, il y aura même des défis à réaliser sur les jeux rétro, notamment.
Et de gagner aussi.
Sur Pac-Man, il faudra essayer de rester immobile pendant 10 secondes sans se faire toucher. Et ça, pour y arriver, il faut y aller.
Faire décoller la fusée à Tetris. Et...
Ça, c'est difficile aussi. Et justement, tous ces défis permettront d'engranger de l'argent pour une association caritative qui est Dessine-moi l'Hightech. Et donc, c'est gratuit pour tout le monde. Il y aura de la VR. Et sur nos flyers, il y a des petits QR codes si vous voulez trouver dans la ville. Ils sont cachés un peu partout, dans les bars, dans les restaurants. Et du coup, voilà, vous pouvez aller vous inscrire sur le site internet pour les visiteurs. L'inscription est gratuite. c'est mieux de vous inscrire. Ça, c'est plus simple au niveau de l'entrée pour nous après. Et je précise que pour les 20 premiers visiteurs qui arrivent sur place, il y aura des cadeaux pour les 20 premiers arrivés. Donc il faudra être rapide, c'est à partir de 10h jusqu'à 19h.
Et il y a restauration sur place aussi, enfin tout est prévu pour les visiteurs, il n'y a pas de souci.
Et en plus il ne fera que 22 degrés.
Oui, il fera un temps, en fait, ils annoncent pas hyper beau ce week-end, donc il fait un temps.
Un temps de gamer.
Voilà, aller rider avec Colin McRae Rallye en PS1, faire des trucs comme ça.
Il y a du SSX en plus, il me semble.
Ouais.
Eh ben, on va aller rider de la puff à MAM, comme disent les Jones.
Et les moins Jones.
Et les moins Jones.
Bien, merci beaucoup à vous. Alors peut-être qu'on peut rappeler une dernière fois aussi que vous avez été étudiant au CEFIM, voilà, sans qui peut-être ce projet... n'existerait pas.
C'est vrai. Merci à ce film.
Ouais, tout à fait. Et du coup, la nouvelle formation CCES 2023 sera annoncée, je ne sais pas exactement quand, ils sont en train de régler les détails, mais elle aura bien lieu, toujours à Tours, haut de Lyon, donc guettez les réseaux du CFIM pour pouvoir prendre vos places pour cette prochaine édition.
Et les places sont chères peut-être et peu nombreuses.
Les places sont chères et peu nombreuses et en fait il y a tellement de gens qui demandent qu'ils sont obligés de faire une semaine de testing. Donc pendant une semaine ils nous mettent à rude épreuve pour tester nos capacités et à la fin il y a des vainqueurs comme je l'ai été.
Voilà, et bien merci à nos trois étudiants, alors Théo, Maxime et Félix, vous êtes venus nous présenter cet événement 25 juin à MAM. Voilà. Merci à toi Sébastien également d'être venu dans cette émission et de nous avoir proposé cette playlist. On se quitte pour aujourd'hui, il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible et je rappelle que cette émission est à retrouver en podcast sur notre site radiocampustour.com. Thank you.